France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le monde a besoin de pionniers et cet endroit est notamment un endroit qui rassemble les pionniers et qui veulent travailler ensemble et faire bouger les lignes.
C'est comme ça que ça marche, Davos bien sûr. Vous croisez des personnes au café, dans la rue ou à des conférences publiques comme celle-ci et l'une d'elles sera peut-être hyper importante pour vous.
En une semaine, vous pouvez rencontrer plus de gens et obtenir plus d'informations qu'en voyageant partout dans le monde pendant 5 ans. Ainsi, le monde vient à vous, ici, et vous pouvez voir les dirigeants du monde.
Ce qui est magique ici, c'est qu'on est ailleurs. Il y a une autre façon de regarder le monde ici. C'est une petite parenthèse.
La petite ville de Davos, dans les Alpes suisses, a retrouvé son calme. Le palais des congrès s'est vidé, l'immense centre de presse a été démonté. Les chefs d'État et de gouvernement, les financiers et dirigeants d'entreprises sont partis, tout comme les 5000 militaires suisses qui assuraient la sécurité de ce beau monde. Au cours de cette 54e édition du Forum économique mondial, du 15 au 19 janvier, les décideurs étaient conviés à rebâtir la confiance et améliorer l'état du monde. On connaît la vitrine de cet événement avec ses conférences retransmises en direct sur l'économie et la politique internationale. Et cette année, vous avez pu entendre certaines déclarations en provenance de Davos sur les guerres au Proche-Orient et en Ukraine, sur l'intelligence artificielle ou encore le changement climatique. Mais le forum a d'autres facettes, comme en témoigne ce chiffre. Alors qu'il y avait officiellement cette année 2800 inscrits, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont afflué à Davos pendant une semaine. Qui sont-elles? Que sont-elles venues chercher? Et après avoir payé leur séjour à prix d'or, ont-elles trouvé leur bonheur? Les coulisses de Davos, c'est un reportage signé Marie Vienno. Bonjour Marie.
Bonjour.
Nous allons découvrir avec vous toutes ces personnes qui gravitent autour du Forum économique mondial. Mais pour commencer, qui est derrière l'événement lui-même ?
Le World Economic Forum, WEF en bon français, c'est le nom de l'organisation qui organise cet événement. C'est un organisme privé, une fondation suisse à but non lucratif qui emploie environ 700 personnes à Genève, mais aussi à New York, Pékin et Tokyo. La rencontre de Davos est ce qu'il y a de plus visible dans ses activités, mais le WEF fonctionne toute l'année. Produit des rapports, anime des alliances, des coalitions et des réseaux de jeunes notamment. L'idée, c'est de réunir des personnes en position de pouvoir pour qu'elles dialoguent. C'est donc le lieu idéal pour faire du lobbying pour son projet, son entreprise, mais aussi son pays. Le but étant d'améliorer l'état du monde. C'est dans les statuts de la fondation et écrit partout sur les murs du centre de congrès de Davos. Le WEF est financé par les entreprises via des cotisations annuelles de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais on peut être membre à partir de 15 000 francs suisses. En 2023, son budget annuel fut de 436 millions d'euros, l'équivalent d'une bonne grosse PME. Alors il y a un comité directeur exécutif dirigé par Klaus Schwab, le fondateur, un comité stratégique de 30 membres, parmi lesquels une moitié de PDG et des personnalités telles que Christine Lagarde, Al Gore ou la directrice de l'OMC. Du premier Davos en 1971, qui s'appelait d'ailleurs Symposium européen de gestion des affaires, le WEF s'est internationalisé, géopolitisé, on pourrait dire. Il y aurait un tiers d'Américains, un tiers d'Européens, un tiers reste du monde, mais les multinationales américaines sont clairement dominantes parmi les acteurs économiques à Davos.
Et l'invité qui commentera votre reportage est un habitué de Davos. Il s'agit d'André Leskroeck-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative, ou plus simplement JEDI, une agence qui vise à ce que l'Europe reprenne le leadership sur les nouvelles technologies. Alors Marie, vous étiez accréditée au forum officiel, bien sûr, mais vous êtes aussi allée dans des lieux alternatifs, comme le Climate Hub Davos, où parmi les nombreux ateliers proposés, il y avait une séance de méditation.
We are held by this energy collectively.
Je m'appelle Anaïs Campion, je suis la coordinatrice de Green Up pour la Suisse romande. Ici, on se trouve dans le Climate Hub Davos. Donc, c'est vraiment la ville de Davos qui nous met ça à disposition pour pouvoir parler du climat. En fait, on est vraiment orienté solutions et en ayant vraiment une vision positive pour amener ces solutions sur la table. Certaines sessions sont fermées que sur invitation, tandis que d'autres, elles sont ouvertes. Et après, on a aussi des projections de films, par exemple, qui sont ouvertes à tout le monde, mais il faut pouvoir s'enregistrer parce qu'on a un nombre limité. Ici, nous, on n'a pas le sentiment de se sentir comme une caution parce qu'on fait vraiment quelque chose de constructif par nous-mêmes, ici, à cette place.
C'est un double espace, salle de cinéma et café, avec d'immenses baies vitrées qui donnent sur la montagne. Ici, on paye ses consommations, le lieu est animé par des bénévoles. À la sortie, d'anciennes planches de surf ont été recyclées en bancs. Pour alerter les passants de sa présence au fond de la place recouverte de neige, le Climate Hub de Davos a planté un panneau sur la rue principale qu'on appelle ici la promenade. Un seul message y figure, une seule phrase que Thorsten, suisse-allemand en bonnet, accepte de commenter.
You cannot have infinite growth. On
ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. Mathématiquement, c'est correct. Mais je pense qu'on panique trop parfois, comme si on allait disparaître dans une semaine, un an ou 10 ans, parce que les ressources de la planète seront épuisées. Même si ces ressources sont limitées, elles sont énormes, bien plus grandes que ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, je suis plutôt relax.
Que faites-vous ?
Entrepreneur. On a créé un logiciel de développement durable. Il aide à gérer les déchets de façon circulaire.
Vous êtes dans le vert.
Absolument. Mais ce n'est pas pour ça que je panique. Ce qu'il y a écrit est correct, mais dans 2 millions d'années.
Est-ce que vous avez un badge ?
Non, je n'achète pas de badge pour l'événement principal, ça coûte plus de 20 000 francs suisses, c'est fou. Moi je paye 20 000 francs suisses, mais pour mon stand, un bien meilleur investissement.
Où ça ?
Dans la House of Trust, c'est un peu plus bas sur la gauche, au deuxième étage. Il y a toutes sortes de conférences et de présentations. Ça peut être très cher de venir ici, mais vous pouvez aussi y arriver avec un budget limité. Mon hôtel, par exemple, il est à 1 heure d'ici. Je paye un prix normal et pas 2000 francs suisses la nuit, comme ici. C'est vraiment bien, il y a des gens de partout, Inde, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Indonésie. Il n'y a personne que vous ne puissiez pas rencontrer ici. Moi, j'entre ici. C'est une conférence organisée par une fondation en Arabie Saoudite sur la jeunesse. Je suis ici pour apprendre. Et peut-être que quelqu'un d'intéressant va s'asseoir à côté de moi. C'est comme ça que ça marche, Davos, bien sûr. Vous croisez des personnes au café, dans la rue ou à des conférences publiques comme celle-ci. Et l'une d'elles sera peut-être hyper importante pour vous.
Ok, thank you.
All right, bye.
Bye. De part et d'autre de la promenade, sur 2 kilomètres, il n'y a plus une seule boutique excepté 2 marques de montres de luxe. Toutes ont été transformées en espaces, lounge, café, conférences. Accenture, Amazon, Microsoft, Meta, Google, Palantir, EY, Cisco, toutes les plus grandes entreprises américaines sont là. La rue grouille de monde et de voitures noires. L'embouteillage est permanent, l'air pas pur du tout. De visu, on croise plus d'hommes que de femmes, mais la promenade a son Equality Lounge, un espace financé par des entreprises et dédié à l'équité salariale.
Can I please see your badge? What's a good email address for you? We are the Female Quotient. This is the Equality Lounge. Everyone's welcome. Especially here in Davos.
Je m'appelle Isabelle Grosmaître, je suis catalyste du changement au service de l'impact. Nous, on accompagne les pionniers du monde qui veulent vraiment faire bouger les lignes et qui construisent les modèles de demain.
Est-ce que ces pionniers, on peut les trouver ici à Davos ?
Oui, c'est pour ça que je suis là en fait. Le monde a besoin de pionniers et cet endroit est notamment un endroit qui rassemble les pionniers et qui veulent travailler ensemble et faire bouger les lignes.
Et vous restez combien de jours ?
Je suis arrivée lundi midi, je repars mercredi midi. C'est un investissement important en tant qu'entrepreneur. Néanmoins, je suis invitée parce que je fais partie des 100 femmes de Davos et je suis également speaker dans le Women Inspiring Network. Donc ça permet aussi de faire rayonner Goodness & Co, de me permettre d'avoir accès à des leaders que je ne vois pas forcément d'habitude. Donc c'est un investissement qui est pour moi rentable.
Ça, vous avez le badge, vous avez pu être invitée à l'intérieur ?
Non, je n'ai pas ce badge-là.
Alors quand vous dites que vous êtes invité, ça veut dire quoi ?
On a d'autres badges, en fait, il y a plusieurs niveaux de badges, en fait. Accès à des conférences, accès à des salons privés, accès à... voilà, c'est des affiliates.
D'accord. Et pour vous, c'est dommage de ne pas aller au centre de conférences à l'intérieur ou pas ?
Pas forcément. Si on est invité aussi dans les événements qui rassemblent les pionniers, moi, ça me convient. Et après, la troisième chose que je privilégie, parce qu'en tant que femme entrepreneur, ça compte beaucoup pour moi, c'est les endroits qui rassemblent des femmes puissantes et qui font entendre nos voix.
Comme cet endroit ici, donc les Quality Lounge où nous sommes très bien servis. On nous propose un café toutes les 5 minutes, des petits gâteaux. Et donc vous êtes logé ici à Davos ?
Oui, grâce au réseau de femmes qui nous trouvent des appartements qu'on partage avec des roommates, très sympa.
Et c'est quoi ce réseau de femmes alors ?
Celui-ci c'est 100 Davos Women et puis également il y a un autre réseau qui s'appelle Davos Women Network. Ici, vous êtes au Equality Lounge avec The Female Quotient, qui était la semaine dernière au CES de Las Vegas, par exemple. Donc, on se retrouve régulièrement dans les différents événements à travers le monde. Moi, je vais vous dire, ça m'apporte une force extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est pas si facile de vouloir changer le monde. Et je crois vraiment qu'on a, on s'apporte un soutien les unes aux autres extraordinaire. On s'aide pour aller dans les soirées qui comptent. On s'aide pour faire intervenir à des conférences. Et donc, je dirais un soutien, une puissance énorme. Et ça nous donne une énergie, en fait, tout simplement.
Un peu plus loin, on lit sur une devanture « L'impossible est possible », c'est la maison des Émirats Arabes Unis. Au menu, petit déjeuner, concerts, conférences, où s'exprimeront pêle-mêle les trois ministres dépêchés à Davos, mais aussi le patron de Microsoft, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, entre autres. Tout est gratuit, même les bonnets, gants et tours de cou distribués à la sortie. En face, il y a la maison de la Colombie. Le Kurdistan a aussi la sienne, pas la France, mais elle a organisé une French soirée dans une église, transformée en salle de réception pendant le WEF. L'Ukraine s'est installée dans l'ancienne maison de Russie. Plusieurs États indiens ont la leur, mais la plus grande, c'est la House of Switzerland, la maison suisse. Elle est installée sur la patinoire de Davos, en contrebas de la promenade. Pendant une semaine, c'est le lieu où le gouvernement suisse, venu à Davos dans sa quasi-intégralité, fait sa diplomatie.
Nous sommes suivis.
Oui, nous sommes suivis par la secrétaire d'État à l'économie qui nous passe devant.
Nicolas Bidot est ambassadeur chargé de la communication aux affaires étrangères.
J'ai amené plusieurs ministres et chefs d'État le long de ce grand tapis rouge. Et puis là, vous sentez un peu l'état d'esprit qu'ils ont à Davos. Ce qui est magique ici, c'est qu'on est ailleurs. On est ailleurs, donc on est à la fois dans le village global, politique et économique, mais en même temps, on est ailleurs. Ils regardent tous les montagnes, c'est quoi ces paravalanches qu'on voit là au fond, là. Et là, vous avez la possibilité de les mettre dans un autre mood. Et ça fait bientôt 25 ans que je fais ce WEF, et vous voyez tout de suite qu'il y a une autre façon de regarder le monde ici. C'est une petite parenthèse. Au début de l'année, on est dans le bilan, on est dans la perspective. Et donc, pour la Suisse, c'est inestimable. Il y a 2 jours, on a organisé une conférence sur la paix avec l'Ukraine. Parce qu'on a organisé cette conférence, on a pu recevoir le président Zelensky hier. Donc là, la possibilité pour nous, en politique étrangère, de jouer le rôle qu'on aimerait pour la paix. Donc voilà, pour la Suisse, c'est aussi bien sur le plan économique, je dirais, que sur le plan politique. C'est des interactions, c'est parfois des deals, c'est parfois aussi beaucoup de discussions secrètes qui nous positionnent sur d'autres dossiers qui n'ont pas du tout lié à Davos, mais qui sont là, dans cette parenthèse où on discute beaucoup avec les décideurs de ce monde. Vous n'êtes pas trop essoufflé, on va monter les escaliers.
Alors j'imagine que vous participez aussi à des COP, à des événements à l'ONU. Quelle est la différence ici à Davos?
Je pense que les événements comme les COP sont des événements où on a beaucoup moins de place pour l'imprévu, beaucoup moins de place pour l'interaction instinctive en différentes élites. C'est un peu une tarte à la crème de vous dire qu'ici, on n'a pas de cravate, qu'on se retrouve autour d'un feu, etc. Mais ce n'est pas tout à fait faux. Et donc, il y a évidemment un agenda, je l'ai dit avant, un agenda qui est important. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, par exemple, qu'on sent un peu partout, et la gouvernance par rapport au conflit, notamment Ukraine-Russie, ça c'est l'agenda. Par contre, les soirées, les interactions au salon, dans la maison suisse, par exemple, là, il y a beaucoup plus d'imprévus, il y a beaucoup plus d'interactions, puisque nous sommes dans un setup moitié vacances, moitié tourisme, et ça c'est très différent par rapport au COP. Parce que le multilatéral et le règlement des fonctionnements entre États, qui est important, mais permet un peu moins cette spontanéité qu'on retrouve ici à Davos.
Il y a moins de protocoles ici, on va dire,
Il y a vachement moins de protocoles, et d'ailleurs, c'est assez simple, vous voyez, les compositions des délégations sont beaucoup plus petites. Moi, ce matin, j'étais chercher mon boss, le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis. J'étais le chercher dans le lobby du Hilton, pour ne pas le nommer. Et le lobby du Hilton, c'est la fourmilière non protocolaire. Puisqu'il y a peu de personnes qui ont accès à ces fameux sésames, le badge blanc. Vous avez tous ces chefs d'État qui se retrouvent dans le lobby. et ça va dans tous les sens. Et en fait, le protocole freine souvent ce genre d'interaction. Et donc, l'absence de protocole, vous avez raison, c'est aussi évidemment un accélérateur pour des rencontres spontanées.
Le Hilton se trouve dans la partie ultra sécurisée de la promenade. Sur 200 mètres, la rue n'est plus accessible si on n'est pas accrédité par le WEF. Des miradors surveillent, on y est contrôlé comme dans un aéroport. C'est là que vient manifester, le deuxième jour, un collectif mystérieux, local et très sonore. Nous venons pour envoyer de la bonne énergie aux gens qui sont dans la conférence à l'intérieur. Une énergie positive, dit l'unique porte-parole du groupe de cloche. Je crois savoir que Larry Fink, le patron de BlackRock, est là, puis il cite Christine Lagarde, les membres du Bilderberg, un groupe encore plus sélectif que Davos. S'il vous plaît, dit-il, utilisez l'argent pour des choses vraies et pas des farces, comme le climat, dont on ne sait rien. Avant de pénétrer dans le centre de conférence, accréditation et contrôle des bagages obligatoires. Chacun découvre alors la couleur de son badge, orange média, vert affilié, bleu organisation, marron accompagnateur. Stuart Eisenstadt enfile des crampons sur ses mocassins, il a le badge blanc, le plus select.
C'est ma 29e année consécutive à Davos. Je viens depuis 1995. J'ai été membre de 6 administrations américaines. C'est chaque année fascinant. En une semaine, vous pouvez rencontrer plus de gens et obtenir plus d'informations qu'en voyageant partout dans le monde pendant 5 ans. Ainsi, le monde vient à vous, ici, et vous pouvez voir les dirigeants du monde. C'est toujours très excitant et unique. Je me suis déjà inscrit à de nombreux programmes. J'ai plusieurs déjeuners. J'aurai des séances privées auxquelles je me suis également inscrit pour rencontrer des gens. De nombreuses entreprises organisent des réceptions en soirée. C'est comme un sprint de 5 jours avec très peu de sommeil, matin, midi et soir. Mais c'est ce qui fait l'excitation.
Nouveau contrôle, on passe une visite organisée pour une dizaine d'habitants de Davos qui ont gagné leur badge grâce à une loterie. On traverse alors un couloir de plus de 200 mètres de long, le centre de presse est à l'étage. Puis on ressort, direction le centre de congrès, cette fois en petite voiture, avec Paul Veilla, journaliste économique au quotidien suisse 24 heures.
Oui, alors c'est une petite voiture électrique qu'on retrouve dans les stations alpines suisses, notamment à Saas et à Zermatt, une longue tradition où le petit convoyage se fait électrique.
Voilà. Depuis longtemps ?
Oui, alors depuis très longtemps.
Ah, ok. Donc c'est plus une façon de montrer quelque chose qu'on fait en Suisse que plutôt un luxe, parce que là, finalement, on évite 5 minutes à pied.
Oui, mais s'il fait très très froid ou qu'il neige, c'est très appréciable. Notamment pour les gens qui doivent sauter d'une réunion à l'autre et venir au centre de presse, repartir dans le centre des congrès, et qui n'ont pas forcément envie de repasser pour se changer, etc. Parce que ça peut être assez délicat de se déplacer.
Là, la neige fond un peu, mais avant, c'était de la glace.
Des fois, ça peut être très glaçant, hein, et surtout le matin. Voilà, là, on arrive au centre des congrès, à une des entrées du centre des congrès.
Tout en bois, c'est un beau bâtiment. Hein.
Alors, c'est un bâtiment en béton, mais qui est recouvert de bois, oui, effectivement.
Merci.
Davos était connu pour être d'abord un sanatorium avant la Première Guerre mondiale, qui a été très très important parce qu'on savait on n'avait pas d'antibiotiques et en fait on soignait les gens en les exposant au soleil et à l'air pur, mais c'était réservé quand même à une clientèle assez aisée. Et puis Davos, comme vous le savez peut-être, ça a été un lieu très important pendant les deux guerres mondiales. Parce que ici, les différentes puissances du monde se retrouvaient pour quand même tenter de discuter. Et par exemple, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, Davos a été le siège des négociations financières entre l'Allemagne et les États-Unis. Parce que les deux avaient quand même besoin d'échanger des dollars ou des Deutschmark, du mark allemand. Et ça a donné lieu à la Banque des règlements internationaux. La BRI, qui est une institution très importante dans le monde, qui gère tout ce qui est réglementaire au niveau de la finance. Et maintenant, le siège est à Bâle. Mais l'origine est à Davos.
Et vous diriez qu'aujourd'hui, Davos reste un lieu de décision ?
Non, ce n'est pas un lieu de décision. C'est un lieu de rencontre. Il y a beaucoup d'initiatives, de la société civile, des entreprises, mais ce n'est pas un lieu où on prend des décisions, parce qu'elle n'a pas de statut international au sens onusien du terme.
Vous, quand vous venez ici, vous suivez les conférences ou plutôt vous allez dans des réunions, vous allez dans les soirées? C'est quoi votre Davos à vous?
Alors, je suis les réunions et puis je vais dans des meetings, mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller dans les soirées, c'est juste impossible.
Vous êtes sûr?
Ah non, c'est complètement impossible.
Et qu'est-ce qui se passe dans ces soirées? On vous raconte ou...
Oui, bah, y a toutes sortes de légendes. Il y avait à l'époque pas mal de débordements avec les Russes. Les Russes étaient connus pour faire des foires monumentales, qui posaient d'ailleurs un peu des problèmes, etc. Mais c'est clair que... Ici, il y a beaucoup de réunions privées où on fait la fête. Hein.
Et les Russes, justement, leur absence, ça change quoi, à part ces fêtes?
Ça change que le WEF n'est plus neutre. Pendant longtemps, le WEF avait comme philosophie de parler avec tout le monde et d'inviter tout le monde. Souvenez-vous, Arafat a rencontré les autorités israéliennes ici. C'est la première fois qu'ils se rencontraient, même avant Camp David. Et puis le WEF avait cette ambition de permettre à tout le monde de se parler, quelles que soient les oppositions. Il y a l'Iran qui est présent cette année, mais la Russie, pour la première fois, a été exclue. Elle n'a pas été invitée. Et là, c'est le WEF, je pense, Klaus Schwab, qui a pris une décision. Il s'est aligné sur les États-Unis et l'Union européenne. Ce qui est intéressant aussi, à Davos, vous voyez, on vient de croiser David Cameron, qui a passé derrière nous. C'est ça, Davos. Et vous pouvez vous retrouver au Congrès, à boire un café à l'époque, avec Angela Merkel, sans problème.
Et lui parler vraiment?
Non. En général, il y a toujours quelqu'un qui intervient.
Barista colombien, fruits, barres de céréales siglées World Economic Forum, le café lounge du centre de congrès est the place to be pour faire des rencontres inopinées quand on ne peut pas accéder aux autres cafés, ceux qui sont réservés aux membres du WEF et sont beaucoup plus fermés. J'y retrouve Nikos Paragios. Il fait partie de la délégation française de start-up venue dans les bagages d'Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, j'ai des réunions qui sont intéressantes. La première réunion, c'est avec le président de Alzheimer Foundation aux États-Unis. Donc, c'est une non-profit organization qui vise à promouvoir des traitements pour l'Alzheimer. Et comme on travaille sur ce sujet-là, ça peut être plus intéressant. Ensuite, j'ai une autre réunion avec une société en fait, qui veut développer des médicaments dans l'espace. En fait, on sait que dans les microgravités, les cellules se comportent différemment. Et on n'a pas la possibilité de faire des essais cliniques onéreux sur l'espace. Il faut bien cibler les patients. Donc, c'est la deuxième piste.
Vous me disiez que vous avez rencontré le patron de Moderna, c'était ici?
Oui, c'était par hasard, en fait. De couloir, j'étais en train de marcher. J'ai dit, j'ai besoin de 5 minutes de vous. Il m'a dit, non, j'ai rendez-vous. Mais j'ai dit, qu'est-ce 5 minutes? Après, j'ai fait un coup d'introduction et on a parlé. Il m'a dit, donnez sa carte. Et l'idée, c'était poursuivre avec une union.
Et vous pensez que rencontrer un grand PDG comme ça, ça peut jouer? Parce qu'il a tellement d'autres choses à faire.
En fait, je pense que la plupart des décisions business se prennent au niveau des personnes. Ça veut dire, en fait, c'est pas juste des présentations, c'est aussi l'énergie qu'une personne dégage par rapport à une autre et notre capacité à convaincre qu'on est capable de faire des choses. Donc on peut sentir si quelqu'un est positif ou négatif, ou même si quelqu'un est indifférent. Et moi, j'ai pas senti qu'il est indifférent.
Échange de bons procédés, la présence du président français a permis d'augmenter le nombre de badges blancs gratuits pour les Français. Thomas Clauzel, entrepreneur français de la tech installé aux États-Unis, a lui bénéficié d'un tarif spécial.
Alors nous, on est une licorne, on a une communauté de licornes en fait, qui font qu'on paye notre ticket beaucoup moins cher que les autres personnes. Donc on est un peu guidé dans le forum qui est quand même assez immense. Il faut quand même s'y retrouver. On profite de tout, des soirées, des gens intéressants. C'est assez passionnant, le monde entier est là, c'est quand même assez sympa.
C'est votre première fois?
C'est ma première fois, oui.
Vous avez les yeux qui brillent pour la première fois.
Parce que je suis fatigué.
Ah ouais?
C'est un peu épuisant, ouais. On était à la soirée McKinsey jusqu'à 1h du mat. Voilà, on s'est bien marré. La plupart des soirées sont assez reloues, mais celle-ci est assez chouette, c'est des musiques. Ce soir, il y a Sting qui chante à Salesforce, par exemple. Donc, c'est ce genre de truc.
Vous êtes invité ou...
En fait, il y a les invitations officielles, et puis après, il y a toutes les invitations qu'on s'envoie sur WhatsApp pour rentrer dans les trucs où on n'est pas vraiment invité. Toute une technique. Et là, je suis dans la deuxième catégorie.
Go. You should promote him. After you, it should be in your succession plan.
Pascal Cagny est directeur de Business France, l'agence qui promeut la France comme lieu d'investissement et aide les entreprises françaises à exporter. Il vient de croiser le patron du plus grand producteur chinois de panneaux solaires. Ancien PDG d'Apple France, Pascal Cagny fait partie des habitués de Davos. Il compte sur cette édition pour qu'il y ait à l'avenir plus de Frenchies parmi les invités.
Nous, Français, lorsque je regarde les centaines de speakers, de participants à des tables rondes, on n'a pas la représentation qu'on devrait avoir compte tenu de notre poids à la fois dans le domaine des idées et dans le domaine économique. Et maintenant que mes Frenchies parlent parfaitement l'anglais, travaillent avec les codes de ce monde, qu'ils soient invités à être eux-mêmes sur des tables rondes. N'oubliez pas que ceux qui peuvent s'offrir les fameux badges dont on parlait sont présents. Il y a évidemment des membres du CAC 40, mais je souhaite moi, et c'est mon rôle, c'est ce qu'on appelle le soft power, pour reprendre encore un terme bien anglo-saxon, que c'est vraiment, il est temps que ce pays, le nôtre, puisse travailler avec ces codes-là. La globalisation heureuse est finie, c'est une vraie bataille avec un choc de géant entre les États-Unis et la Chine. Il nous faut, nous, Français, Européens, avoir une voix à chapitre. Et ce qu'il faut, c'est bien comprendre que dans ce forum-là, mais quelques autres forums dans le monde, avoir un point de vue français où on assume totalement notre état-providence, où on est capable de dire, bah oui, nous, Français, on a les gilets jaunes, on a les grèves, mais rassurez-vous, la France ne résume pas à cela. Et c'est un challenge, mais il faut le faire.
Est-ce que vous payez votre badge, par exemple, vous qui êtes ici pour directeur de Business France ?
C'est une question très indiscrète, mais j'ai le privilège de vous répondre qu'à la faveur de mon expérience, on m'a offert ce badge en tant que personnel qualifié et je fais économiser à mon État près de 150 000 euros puisque avec mon agence nationale, je n'ai pas les moyens de mettre 150 000 euros dans ce fameux badge. Donc je ne suis pas plus que cela l'avocat de Davos, mais dans ma fonction d'ambassadeur, je pense que c'est important que la France y soit représentée. Je ne crois pas, j'en suis absolument convaincu, intimement convaincu.
Lors de sa visite, Emmanuel Macron a rencontré en privé plus de 60 CEO, les PDG. Des salles plus petites sont prévues à cet effet. Christian Levin, PDG de Scania, un producteur de poids lourds suédois qui compte 55 000 salariés, sort de l'une d'elles.
Je sors d'un débat avec deux ministres japonais, un débat fermé, où on a l'opportunité de parler directement avec les ministres. Et on a eu l'opportunité de poser des questions pour comprendre comment le développement au Japon se fait. Où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette situation géopolitique assez difficile.
Et pourquoi c'est important comme ça de pouvoir poser des questions directement?
Parce que pour nous, c'est très important que notre secteur fasse la transition vers électrique. On est un des gros problèmes pour l'émission de CO2. On a la technologie, il est déjà disponible. Mais il va falloir des supports au niveau directement des gouvernements pour faire le changement nécessaire. On ne peut pas faire le changement tout seul, sinon ça va être trop tard. Parce que le monde aujourd'hui sponsorise le fossile. C'est comme c'est grand dommage. Donc il faut faire changer, il faut que les gens politiques changent.
Et vous, c'est des messages que vous passez aux ministres ?
Oui, exactement. Et on a aussi pu poser des questions pour comprendre où est-ce qu'il va Japon. Japon est un marché avec beaucoup de règlements uniques. Ça coûte beaucoup d'argent pour les sociétés globales d'opérer au Japon. Et j'ai eu l'impression que ce gouvernement a vraiment l'ambition de se développer dans une direction globale.
Avec quels autres gouvernements vous avez pu avoir des contacts comme ça ici à Davos ?
On a au Davos l'opportunité de demander à tout gouvernement. Bon, après, il faut avoir la chance d'être accepté. Vous avez peut-être 20 personnes dans la chambre. Donc j'ai eu l'opportunité cette année de discuter aussi avec la Chine et avec la Suisse.
De l'extérieur, les gens pensent que du coup les choses se décident, que ce n'est pas démocratique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, vous ?
Je comprends cette dimension, mais pour moi, Davos, c'est une plateforme pour discuter sustainabilité. Le nom est World Economic Forum, mais pour moi, c'est vraiment World Sustainability Forum. Chaque réunion où j'y vais, on discute le challenge avec le CO2. C'est une possibilité d'envoyer des messages directement aux gens qui nous gouvernent.
Ce n'est pas du greenwashing, c'est vraiment vous êtes en attente que les gouvernements agissent.
Oui, absolument. On ne peut pas transformer ça tout seul. Comme je vous ai dit, on a développé la technologie, ça nous a coûté très cher. Aujourd'hui, il va falloir créer la demande. Et la demande, ça vient pas tout seul.
Il faut qu'ils régulent, quoi.
Absolument, il faudra qu'ils changent les lois dans les pays.
On a l'impression qu'ils ne le font pas à cause de vous, justement, des fois, à cause des entreprises.
Oui, non, mais ça, c'est... Oui, je sais. Il y a eu une histoire où les sociétés ont essayé d'éviter la législation. Aujourd'hui, la situation est complètement opposée. C'est plutôt nous, les grandes sociétés, on a fait les investissements, on est avant des policymakers. Et il va falloir qu'ils changent et qu'ils changent rapidement. Il va falloir qu'on fait tout en échelle globale.
Et grâce à Davos, ça peut avancer, ça.
Il faut l'espérer.
Merci beaucoup. Merci. Vous allez vers où maintenant ?
Maintenant, je vais vers un déjeuner avec Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis.
Déjeuner, rencontre bilatérale et toujours en continu les conférences publiques traduites dans les 8 langues officielles de l'ONU. Elles sont toujours animées en anglais. Celle qui démarre est très attendue. La technologie dans un monde turbulent, c'est son titre. Avec en guest star Sam Altman, le créateur de ChatGPT, et Marc Benioff, l'un des showman de Davos. Membre du bureau stratégique du WEF, c'est le patron de Salesforce, un éditeur de logiciels qui se positionne très fort sur l'intelligence artificielle. Il s'est payé un mur entier de publicité sur la promenade. Son message, « Let's bring trust and IA together ».
Nous devons avoir confiance et nous devons aussi nous tourner vers les régulateurs et leur dire « Hey, quand on voit les réseaux sociaux et ce qu'il s'est passé depuis 10 ans, on a assisté à un vrai festival de merde. C'est pas bon ce qu'il se passe. On ne veut pas de ça dans notre industrie de l'intelligence artificielle. Nous, nous voulons établir un partenariat bon et sain avec les modérateurs et les régulateurs. Ce sera déterminant pour la suite. » Lorsque je demande à nos clients ce qu'ils veulent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils veulent plus de marge, plus de productivité, de meilleures relations avec les clients. Mais en fin de compte, leurs salariés, vont-ils les remplacer ou les augmenter ? Nous entrons dans un nouveau monde fantastique. J'adore quand Sam dit qu'il y a au-dessus de son bureau un panneau qui indique « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite » et c'est vrai qu'on n'en sait rien.
Il y a écrit « Personne ne sait ce qui va se passer après ». C'est une différence importante.
C'est vrai. Merci de m'avoir corrigé.
Dans cette même salle, le premier soir, le WEF démarre par un concert et la remise des Crystal Awards à 3 artistes. Angélique Kidjo, la chanteuse franco-béninoise, l'a reçue en 2015 pour son engagement auprès de l'UNICEF.
L'année prochaine, je reviens pour demander ce qu'on a fait. Parce les temps sont tellement difficiles en ce moment. Cette année, il y a beaucoup d'élections, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On doit commencer par travailler et à mettre les jeunes au centre de nos décisions. Il est important d'avancer. Les paroles, j'en ai marre.
Et venir ici pour vous quand même, parce que ça a une image forte Davos. Pourquoi venir ici ?
Parce que c'est l'un des endroits où on peut encore parler, on peut encore dialoguer. On ne peut pas fermer la porte au dialogue. Même dans les conflits les plus difficiles, on a besoin de se parler. Même les ennemis, les pires ennemis sont obligés de s'asseoir pour parler. Sinon, on ne peut pas créer un monde. On ne peut pas être en colère constamment, on ne peut pas faire la guerre tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on parle et qu'on règle les conflits, et qu'on règle les problèmes et qu'on avance.
Et qu'on parle aussi aux gens qui ont le pouvoir, c'est ça que vous disiez ?
Absolument, de tout le monde. Que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les chefs de gouvernement. Tout le monde doit leur parler, tout le monde. Parce qu'ici, ils viennent ici pour ça. Il faut qu'ils puissent rencontrer la société civile ici et qu'on leur pose des questions.
Et vous venez pourquoi alors ?
Moi, je suis en tant qu'artiste, je suis là, je suis dans le bord de art et culture de Davos, en fait. C'est avec on a organisé le concert qu'on a fait en ouverture.
La société civile est bien présente à l'intérieur. Plusieurs ONG ont leur badge blanc, notamment le directeur exécutif d'Oxfam International, invité aussi le chef d'une tribu d'Amazonie. Il pose avec son épouse devant un immense écran animé de couleurs. Partout, des portraits de jeunes artistes ou activistes. à ceux qui reprochent au forum de poser les bonnes questions sans jamais y apporter de réponse. Olivier Schwab, fils du fondateur et membre du comité de direction, répond.
Davos, c'est un moment dans le temps où nous nous retrouvons tous ici. Mais nous avons des activités tout au long de l'année où nous travaillons avec tout notre écosystème, en fait. Davos est un peu un incubateur de projets et de solutions. Je vous donne un exemple concret. En 2000, c'est à Davos qu'est né le Gavi, l'Alliance, le Global Alliance for Vaccination and Immunization. Et c'est avec les différents acteurs, notamment le Bill and Melinda Gates Foundation, ainsi que d'autres acteurs, qui se sont rencontrés ici et qui ont décidé de lancer ce projet-là. Considérer Davos vraiment comme un incubateur est une bonne façon de le voir.
Les anti-Davos, vous les comprenez ?
Oui, bien sûr, mais l'on se rend compte souvent que, en fait, nos objectifs sont les mêmes, mais des fois peut-être avec des idées un petit peu différentes de comment les atteindre. Nous voulons tous une planète plus vivable, plus durable, et je pense que leur objectif est le même que le nôtre.
Parmi les programmes que le World Economic Forum mène en continu depuis 20 ans, il y a les Young Global Leaders, un programme par lequel est passé notamment Emmanuel Macron. Ludovic Subran, chef économiste chez l'assureur Allianz, en fait partie, ce qui lui a permis d'obtenir gratuitement un badge blanc.
Les Young Global Leaders, c'est des jeunes de moins de 40 ans qui sont sélectionnés. L'idée, c'est des gens qui ont souvent accompli des choses. Moi, j'avais passé 10 ans dans le public, j'avais travaillé aux Nations Unies, à la Banque mondiale, et qui sont dans des postes ministériels ou qui sont des entrepreneurs à succès, et qui veulent discuter. L'idée, c'est de vouloir échanger, c'est d'avoir une approche assez mondialiste des choses, il ne faut pas se cacher. Dans ma promotion de Young Global Leader, j'ai une activiste colombienne qui sur les histoires d'inégalité de genre, d'égalité de genre, une ancienne ministre bulgare des Transports qui s'est battue contre la corruption. Ça ouvre, à mon avis, énormément les écoutilles. Et donc, il y a des méthodes d'échange où on s'écoute jusqu'au bout, par exemple. C'est un peu le bâton de la parole sacrée, là. Donc, mes versions avec des gens un peu hyper compétitifs et qui sont un peu très brillants, donc ils veulent tous avoir raison et qui sont des pros de la rhétorique. Donc, il y a vachement d'écoute.
Est-ce que vous pensez que c'est une façon de rendre aussi favorable à Davos et au WEF des futurs leaders, puisque là, vous disiez vous-même que Gabriel Attal, il a fait partie de ce programme.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est que quand on travaille dans le secteur privé, on est des potentiels donateurs. Donc forcément, plus on est favorable au WEF, plus on peut financer cet événement et donc ces rencontres. Donc c'est sûr que ça dragouille. Je ne sais pas comment dire autrement, mais enfin, en tous les cas, l'idée, c'est de nous convaincre que c'est utile. Après, il y a ce mythe aussi. Le forum place des hommes et des femmes politiques. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que le forum sélectionne des gens qui ont souvent une envie de changer le monde, très forte. Ça rassemble vachement la communauté des jeunes qui viennent ici. Et moi, en tant qu'économiste, c'est génial parce que je sens un peu le pouls. Bah, dans les petites conversations, quand on parle notamment aux entrepreneurs, les entrepreneurs ils sont toujours très optimistes, mais ça permet de sentir un petit peu les signaux faibles. Le Premier ministre chinois, par exemple, ce matin, était genre le pape de la mondialisation. Il nous a fait un discours, on avait l'impression que c'était... il voulait devenir Miss Univers. Et donc ça, c'était surprenant. Donc on apprend aussi sur comment certains pays peuvent communiquer sur des sujets globaux comme ça, alors qu'on ne les attendait pas sur ce sujet-là même.
Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout prendre pour argent comptant.
Bah non.
Ce qui est dit à la tribune n'est pas forcément ce que les gens pensent.
Non, on rebranche son cerveau, on essaie de regarder les signaux faibles, on regarde le fait que le contingent chinois est sorti de la salle juste après et n'a pas écouté Ursula von der Leyen. Ce n'est pas une belle marque d'ouverture au partage de l'information. C'est sûr que, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui doivent être un peu positifs parce que sinon... ça va être difficile de gagner des voix. Et donc, tous les sujets sont vus sous la forme d'une opportunité. Ça, c'est sûr. Deuxième sujet, c'est quand même des grands technologistes. C'est-à-dire des gens qui croient au progrès, mais qui croient aussi au progrès technologique. Et je pense que tout le monde devrait croire au progrès technologique. Moi, j'y crois, ne serait-ce que pour lutter contre le changement climatique. Le problème, c'est qu'on ne discute pas assez des gagnants et des perdants. Comme pour la mondialisation, ce forum, pendant très longtemps, a parlé des bienfaits de la mondialisation. Il n'a jamais voulu voir les méfaits de la mondialisation. Moi, je viens du sud-ouest de la France. Je peux vous parler de la désindustrialisation très rapide de l'Aquitaine, quoi. Et donc, ça va être pareil sur les technos. On va d'abord avoir dans ce forum une discussion sur combien ça peut apporter, sans parler des méfaits. Et au moment où ça aura cristallisé un peu dans l'économie, je pense que là, on parlera de comment on fait en sorte que les méfaits soient atténués. Mais c'est sûr que c'est le premier biais, c'est on accueille la technologie, le progrès, sans trop se poser la question de combien ça coûte ou qui peuvent être les perdants de ce changement. Ça, c'est un vrai biais de ce forum, ça c'est sûr.
Retour sur la promenade. Il a neigé cette nuit. Les crampons de compétition sont de sortie. Au pied du Belvédère, l'hôtel où ont élu domicile les plus grandes sociétés américaines, une campagne d'affichage de l'UNICEF montre l'image d'un enfant dénutri et d'un autre de l'eau jusqu'au genou. Au-dessus, un hélicoptère fait des allers-retours pour évacuer du matériel. Une bonne quinzaine de minutes plus loin, quand on pense être sorti du WEF, de son in et de son off, on tombe sur une tente plus sommaire. Ici aussi, la semaine fut intense.
We're in the SDG tent.
Nous sommes dans la tente Objectif Développement Durable à Davos, un lieu alternatif qui organise des réunions pour qu'on atteigne les objectifs de développement durable.
Eva Zabé, dirigeante de la coalition Business for Nature.
Venir ici nous permet de savoir ce que pensent les entreprises et surtout, nous voulons nous assurer que la nature est au centre de leurs préoccupations ou du moins qu'elle est à leur agenda, ce qui est le cas la plupart du temps. Certaines entreprises tentent de faire avancer les choses. Il y a un nouveau groupe de PDG sur la nature qui a été mis en place ici cette année à Davos. Ils n'en font pas tous partie. Ce n'est pas la norme dominante. Mais on se dit qu'à Davos, il y a moyen de faire levier grâce au pouvoir que peuvent avoir les pairs les uns sur les autres. Lorsqu'un PDG parle à un autre PDG de son secteur, il lui dit « On doit avancer ensemble pour faire bouger l'industrie. Veux-tu commencer avec moi ?» Il y a beaucoup plus de chances qu'ils le fassent plutôt que si on leur demandait. Il y a aussi leurs enfants. Peut-être que si leurs enfants leur demandent, ils le feront. La ministre de l'Environnement de Colombie, qui sera l'hôte de la COP16 pour la biodiversité, était ici aujourd'hui. On était 200 dans la salle, représentant des entreprises, des ONG, des gouvernements. Tout le monde lui a fait une standing ovation pour lui montrer que nous étions tous derrière elle. Maintenant, elle va rentrer en Colombie, mais elle sait qu'il existe un groupe qui représente de nombreux intérêts, qui la soutient, elle et son gouvernement, pour que cette conférence soit un succès et s'engage sur des actions concrètes. C'est ce genre de moment positif qui donne à chacun un petit coup de fouet en ce début d'année pour l'aider à continuer et poursuivre le combat. Jamais je n'aurais pu avoir ce genre d'échange d'énergie sans venir à Davos.
Davos, c'est absolument pas un lieu à boycotter.
Cela dépend de votre mission. Pour nous, c'est l'occasion d'engager un dialogue, mais il faudra aussi l'avoir avec d'autres parties prenantes du monde entier et d'autres générations. C'est nécessaire que les solutions soient testées et approuvées par un public bien plus divers pour s'assurer que ce sont de bonnes solutions. C'est un début, un processus de dialogue qui peut être ensuite poursuivi.
Ce fut l'autre manifestation autorisée à Davos pendant l'OEF, la veille de l'ouverture. Organisée par les jeunes socialistes suisses contre, je cite, ce huis clos entre élites, elle a aussi rassemblé Tax Me Now, l'un des collectifs de millionnaires qui plaident pour un impôt sur la fortune mondiale. Marlène Engelhorn y était, puis elle a enchaîné les interviews flanquées d'une pancarte avec écrit « Tax the Rich ».
Je m'appelle Marlène Engelhorn, j'ai hérité un patrimoine dans des multimillions d'euros et je redistribue ce patrimoine parce que je trouve avoir hérité quelque chose, ça reflète d'un système féodal et non démocratique. Je vis et je travaille à Vienne, mais je ne travaille pas pour un salaire comme les gens normaux, mais je travaille parmi les autres riches de l'organisation Tax Me Now qui s'organise pour demander que les riches soient imposés et que le patrimoine soit taxé.
Votre association Tax Me Now, vous avez décidé de passer plutôt par les médias et donc ces mouvements sociaux. Est-ce que vous avez aussi envisagé, ou est-ce que vous l'avez fait, de rentrer dans le forum, d'essayer d'être accrédité, parcourir les couloirs des lieux où on ne peut pas aller quand on n'a pas ce badge, pour défendre ces idées que vous avez ?
Une très bonne question. Une fois on avait réfléchi, est-ce que ce serait possible, est-ce que ça sert vraiment à grand-chose? Le processus de discussion du forum n'est pas un forum. Un forum est public. Un forum est beaucoup plus ouvert. Et ce n'est pas le cas. Et si je suis d'accord avec la manière dont les décisions sont prises et discutées, je légitime ce processus. Le processus qu'on a choisi ici à Davos de se cacher un peu dans les Alpes suisses avec le militaire et la police un peu partout, et c'est pas facile de venir, c'est extrêmement cher d'être ici, ça déjà, ça crée des exclusions. Il faut vraiment se demander, est-ce que les processus qui sont choisis reflètent les valeurs dont on parle? Parce que le motto, c'est « rebuilding trust », donc reconstruire la confiance, si on veut. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la confiance? Parce que c'est intransparent, parce que ce n'est pas démocratique, parce que c'est difficile à dire que c'est légitime la manière dont ils font les choses.
Les coulisses de Davos, c'était un reportage de Marie Vienno avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
André Le Scrooge-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative et habitué du Forum de Davos, est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous l'avez, ce fameux badge blanc?
Alors je l'ai de temps en temps, c'est-à-dire je suis allé maintenant 6 fois à Davos, dont 3 fois avec un badge blanc, effectivement. Donc une fois j'ai fait le in et le off, et 3 fois j'ai fait que le off, qui est tout aussi intéressant.
Et le badge permet d'aller vraiment partout?
Non, alors le badge permet pas d'aller partout, parce que même parmi les badges blancs, il y a encore des gradations. Il y a notamment le badge blanc avec un cercle brillant, quasiment avec des diamants à l'intérieur, qui est réservé aux personnalités publiques. Donc pour ça, il faut être président, premier ministre, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
Et quand vous l'avez eu, je vous pose plein de questions indiscrètes, vous l'avez payé très, très cher ou on vous l'a offert?
Alors la première fois, j'étais entrepreneur et j'ai payé... pour un entrepreneur très cher, c'est-à-dire 35 000 euros. Et je peux vous dire, tous les soirs, ça dure donc 5 jours. Donc forcément, quand vous le payez, vous restez tous les 5 jours. Vous vous dites, bon, ça m'a coûté 6, 7 000 euros par jour. Et donc, on accumule frénétiquement 3 déjeuners, 4 petits déjeuners, comme dans votre reportage, 5 soirées les unes après les autres. Je peux vous dire, on revient à l'essivé de Davos.
L'objectif étant de rentabiliser cet investissement.
Oui, et c'est peut-être la chose qu'on peut reprocher au forum, c'est que c'est devenu tellement cher. Et à nouveau, 35 000 euros, et ça va sans vouloir choquer, c'est le prix entrée de gamme, puisque la plupart des grands groupes qui sont partenaires stratégiques, je crois que c'est de notoriété publique, payent entre un demi et un million d'euros par an. Donc les grands groupes qui sont les 100 partenaires stratégiques sont quelque part conduits à rentabiliser ça et en font, en plus de ce qu'est le forum qui est de se faire rencontrer différentes communautés, en font un forum d'affaires et donc ils accumulent ce qui s'appelle les bilatérales. Et c'est un associé d'un grand cabinet de conseil qui me disait qu'ils avaient tous l'obligation de faire entre 25 et 30 rendez-vous individuels, donc c'était un peu de l'abattage.
Ça met la pression, Marie.
Oui, il y a un lieu où on n'est pas allé là dans mon reportage, c'était au Belvédère, qui est donc un hôtel, l'hôtel où on recevait avant les gens qui étaient malades et qui maintenant vraiment est devenu une annexe de l'économie américaine. Et effectivement, il y a dans cet hôtel énormément d'entreprises avec beaucoup, qui louent beaucoup de chambres en fait pour leur rendez-vous professionnel. Moi, j'ai eu le sentiment aussi que c'était un peu un lieu pour les Américains pour rencontrer les gens qui venaient du reste du monde, de l'Asie ou quoi que ce soit. Ils se donnent rendez-vous à Davos parce que finalement, c'est pratique pour les uns et les autres.
Ah, mais c'est ultra pratique, surtout dans un monde où c'est quand même un petit peu plus difficile qu'avant de se déplacer. Effectivement, pour des gens qui sont actifs, je sais pas, en Afrique, eh bien, vous avez une grande partie des dirigeants africains qui sont présents, asiatiques également. Vous avez des pays qui ont été fermés pendant longtemps, type la Chine, qui a effectivement fait son grand retour en force, on en parlait dans le reportage à Davos. Donc effectivement, si on voit ça purement sur le côté affaires, c'est un accélérateur de temps, et surtout un moment où on sort de 4 ans, où en fait on est tous un tout petit peu, on en a un tout petit peu assez des relations qui sont purement par... par vidéoconférence. Donc oui, il y a ce besoin de se retrouver dans un monde fracturé où finalement la confiance est la seule chose qui nous relie encore.
Et vous, pourquoi est-ce que vous y retournez justement à Davos? Qu'est-ce que vous y trouvez?
Alors moi, j'y trouve une respiration. Alors sans faire de mauvais jeu de mots, parce que vous avez tout à fait raison, Marie, c'est-à-dire que sur la promenade, l'air est totalement vicié parce que vous avez des limousines qui roulent au pas puisque c'est bouché en permanence et donc vous avez les gaz d'échappement. Mais non, on peut y percevoir, si on écoute bien, quelques grandes tendances. La tendance Trump était tout à fait évidente. Donc là, on avait peut-être quelques jours d'avance sur ce qui allait arriver dans les primaires ensuite aux États-Unis il y a quelques jours. La Chine, qui est probablement dans une crise économique beaucoup plus grave que ce qu'on pense, qui est probablement quelque chose dont on parle moins parce que Ukraine, parce que Proche-Orient, mais où des gens me disaient là-bas qu'on est à un taux de chômage des jeunes de 25%, voire plus, ce qui est quand même une grande inquiétude parce que potentielle aventure militaire, point d'interrogation, et surtout risque sur l'économie mondiale. Toutes ces tendances technologiques, alors pour moi qui suis très investi dans tout ce qui est soutien de la science et de la recherche, on sent qu'on est en train de vivre une accélération comme on en vit probablement toutes les quelques générations. Alors l'IA, l'intelligence artificielle était partout, mais on parle aussi de biologie de synthèse, on parle aussi beaucoup de spatial. On sent aussi que toutes ces disciplines aujourd'hui sont en train de se mêler, que les ruptures arrivent à l'interconnexion. Et moi, ce qui m'intéresse notamment avec une vision française et européenne, c'est comment les Européens, qui sont quand même les grands absents, en tout cas dans l'agenda, de Davos. On entendait que le dirigeant chinois n'écoutait même pas la présidente de la Commission européenne. Comment les Européens peuvent saisir ça pour ne pas que l'agenda de demain leur soit imposé, mais qu'ils impriment leur marque au monde qui arrive.
Vous pensez, comme Pascal Cagny, que les Européens et les Français en particulier doivent investir davantage Davos?
Oui, parce que on est quand même, Davos est devenu, alors initialement c'était un monde où on réunissait, ça c'était vraiment le coup de génie de Schwab, il faut lui reconnaître, de mettre ensemble, que tout problème était à la fois économique, politique, ONG, monde de la culture, cette interdisciplinarité qui est si difficile à obtenir, dans un monde qui ne s'écoute plus vraiment, mais aujourd'hui Davos c'est plus devenu quelque chose où on pitch son idée, on pitch à un investisseur, à un journaliste, un
pitcher,
homme politique.
Peut-être.
Pardon, pitcher, c'est-à-dire où on vend son idée. On essaye de promouvoir ses idées, ses valeurs, son produit, sa société, etc. Je crois que beaucoup des interventions dans les dernières 40 minutes étaient dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, il faut que les Français et les Européens fassent entendre leur voix. Parce que sinon, aujourd'hui, on voit quand même une très forte présence du Moyen-Orient. Sinon, finalement, c'est d'autres voix qui prennent le dessus et qui... Le monde de demain, il est celui qu'on va... C'est, je crois, Saint-Exupéry qui disait ça. C'est celui que nous-mêmes, qu'on va construire. Et donc on ne peut pas juste être sur notre Aventin en se disant, on a les bonnes idées. Il faut également convaincre les autres. Et les autres sont moins convaincus qu'avant parce que la démocratie a des difficultés. Mais je pense qu'il faut être fier de nos valeurs, oui.
Alors, dans Les Échos, vous avez co-signé une tribune assez critique, hein, intitulé « Le festival de Davos ». Qu'est-ce que vous lui reprochez au juste?
Alors, c'est pas vu comme une critique, c'est juste que c'est une évolution. C'est-à-dire que, à nouveau, le forum de Davos, on peut lui reprocher ce qu'on veut, qu'il était très élitiste, etc. Il y a beaucoup de vrai à ça. Il y avait une vraie volonté, au début, de réunir ensemble des gens de très différentes opinions, origines, métier, et d'essayer de trouver ensemble des solutions aux grands problèmes de la planète. Ça ne l'est plus vraiment. Le forum fait beaucoup d'efforts, on entendait Olivier Schwab, le fils du fondateur, en parler. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce que c'est devenu non plus un forum, mais vraiment un festival de ces idées, où chacun promeut sa propre idée. Je pense qu'il y a une opportunité, soit pour le forum, parce qu'il a tous les outils pour, soit pour d'autres organisations, de réinventer un format beaucoup plus petit, Ce qui était la magie de Davos, c'est qu'avant, bah, les chefs d'État, les ministres, les présidents de grandes sociétés venaient sans entourage, sans patron de la communication, sans éléments de langage, et véritablement se retrouvaient entre êtres humains. C'est pour ça que c'était à Davos, parce que c'était dans les montagnes, on était coupés pendant 5 jours. Alors aujourd'hui, maintenant, avec les moyens de communication, c'est plus du tout le cas.
Donc en fait, vous trouvez qu'on parle beaucoup, mais on ne dialogue pas assez ?
On ne dialogue pas assez, et surtout, et c'était frappant par exemple, je suis un tout petit peu en désaccord avec le sujet sur le développement durable, c'est un peu le grand absent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement...
C'est présent dans mon reportage, mais ça a été assez absent, notamment des affiches et de la rue.
Absent des affiches, absolument. Bon, tout était sur l'IA, comme si un peu le monde de Davos avait malheureusement pris en compte que le changement climatique, maintenant, il fallait s'y habituer et que la guerre était un petit peu perdue. Donc retrouver un endroit où on crée ces alliances et où on est surtout poussé par l'impact, la mesure de l'impact. C'est-à-dire que ce qu'a réussi Davos, c'est à créer, c'est ce qu'ils appellent faire l'agenda, c'est-à-dire mettre les sujets importants, évidemment le sujet de la confiance qui était celui de cette année, et le sujet clé dans le monde d'aujourd'hui. La question, c'est comment on fait. Aujourd'hui, on se rend compte que les grands discours, c'est bien. On le voit dans notre pays, on le voit en Europe, on le voit partout dans le monde. La vraie clé, aussi pour retrouver la confiance de nos concitoyens, c'est la mise en œuvre. Et ça, aujourd'hui, c'est probablement la limite inhérente à ce genre d'événement pendant 5 jours.
Alors, vous dites qu'il faudrait réinventer une agora du 21e siècle. Est-ce que ce serait Davos qui doit évoluer ou est-ce qu'il faudrait inventer un autre endroit ?
Ça peut être Davos. Davos va déjà dans un sens où avant, quand on n'était pas invité dans ce Saint des Saints qui est le centre des conférences, où cette année il y avait 2800 personnes qui avaient ce fameux badge blanc qui permettait d'y accéder, il n'y avait pas d'intérêt d'y aller. Aujourd'hui, il y a 30 000 personnes qui y vont, 30, 40, 50 000 peut-être. Il y a probablement la moitié qui ne sait même pas qu'il se passe des choses au centre de conférence. Donc en fait, paradoxalement, c'est plus ouvert. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez un billet de train de la gare centrale de Zurich pour Davos, c'est 55 francs suisses. Alors c'est à nouveau pas à la portée de tout le monde, mais c'est quand même à la portée de beaucoup de gens. Et vous vous retrouvez à Davos. Vous vous faites inviter, comme le disait Thomas dans votre reportage, vous faites inviter à des soirées. Et c'est possible si vous êtes un peu entrepreneur. Donc c'est paradoxalement plus ouvert qu'avant. Par contre, retrouver ce goût de l'impact, retrouver ce goût des projets concrets, on en a un petit peu... Voilà, Davos est allé un petit peu trop loin dans les alliances, les initiatives. Il y a un vrai jargon autour de ça. Les compacts, les coalitions... On en meurt un peu parce que en fait, on est plus sur le process de mettre les gens ensemble que de se poser la question qu'est-ce qu'il en fait. Mais je pense que le forum y réfléchit. J'espère que le forum va réussir à se réinventer. En tout cas, pour le moment, ça marche très bien pour eux. Mais j'espère surtout pour le monde qu'on va retrouver cette espèce d'agora parce qu'aujourd'hui, force est de constater que ni les Nations Unies ni autres institutions internationales n'arrivent à remettre tout le monde autour d'une table.
Mais ce serait pas gênant quand même d'avoir une agora qui est géré par un organisme privé, qui quand même sélectionne les personnes qui peuvent venir, y compris les journalistes. Non, vous pensez que c'est...
Non, bien sûr. C'est toute la difficulté de la représentativité. Je vous rappelle quand on avait eu la convention citoyenne, est-ce qu'on tire au sort ou alors quand on avait fait sur le processus écologique, est-ce que on passe du temps à former les gens parce qu'on ne peut pas non plus avoir juste des gens qui sont tirés au sort, qui sont pas forcément au fait de telle ou telle affaire. Je crois que c'est vraiment... Davos est presque un symbole de comment est-ce qu'on réinvente les processus démocratiques à l'ère du digital. Je pense qu'on n'utilise pas du tout les outils. On parle beaucoup d'IA, mais en fait, on reste encore très traditionnel. C'est des rencontres entre deux personnes dans la neige avec des crampons.
Et on est content de se retrouver pour de vrai. Merci André Lescrouc-Pietri. Le grand reportage Les coulisses de Davos était signé Marie Vienno et réalisé par Annie Bro. Merci à Mathilde Dehimi pour sa contribution. Documentation Rodolphe Meunier et Véronique Le Faller. Et Sébastien Royer était à la technique. N'hésitez pas à partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.